À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, qui avaient pour thème en cette année 2024 le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions et le patrimoine maritime, l'association Anglet Patrimoine a demandé à l'association des amis du réseau Comet de présenter cette organisation résistante qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1941 à 1944, a protégé et exfiltré en Angleterre depuis la Belgique via la France, l'Espagne et le Portugal, les aviateurs britanniques et américains abattus par les Allemands au-dessus des territoires occupés. Cette extraordinaire épopée, dont certains des acteurs et actrices simples citoyens furent arrêtés et exécutés, a perduré jusqu'à la fin de la guerre sans que le réseau ne soit démantelé. Le siège de Comet Sud se situait ville voisine à Anglet, place La Motte. Voici la conférence enregistrée le 21 septembre 2024 à la Maison pour tous d'Anglet avec Dominique Aguerre et Geoff Cooper qui perpétue le souvenir du réseau Comet au sein de l'association Les Amis du réseau Comet. Vous entendrez aussi le témoignage de Christiane Saldias, membre du réseau qui avait alors 14 ans. Vous entendrez également Marie de Merlis, déléguée départementale de la Fondation du patrimoine, qui nous parlera de la réhabilitation de la bergerie Mandochenico-Borda à la Ressort, qui servit pendant la Seconde Guerre mondiale d'abri aux aviateurs anglais. Le réseau d'évasion Comet, Dominique Aguerre et Geoff Cooper.
Mesdames et messieurs, d'abord je voudrais vous remercier d'être ici avec nous cet après-midi. Et surtout sur Anglet, puisque Anglet a une histoire particulière avec le réseau Comet, tout à fait particulière, et c'est beaucoup d'émotions. Et on va vous raconter cette histoire assez incroyable, de cette histoire de 1941-1944 qui s'est passée ici en France, et surtout ici au Pays Basque et à Anglet. Alors, le réseau Comet en Pays Basque, 1940-1944, on dit que c'est la plus longue chaîne d'évasion de la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans le temps, dans sa durée, puisque c'est de 40 jusqu'à 1944, et ensuite par sa distance, puisqu'il s'agit, on va vous expliquer tout ça, d'un réseau belge qui partait depuis Bruxelles, jusqu'ici Bruxelles, Paris, Bordeaux, Dax, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz. Donc on dit aussi que c'est une énorme distance, on va vous expliquer pourquoi le choix a été fait de cette énorme distance. André de Jean, c'est une jeune femme qui a 24 ans, qui vit à Bruxelles, et qui a pris connaissance. Ce qui s'est passé, c'est que des aviateurs, la Royal Air Force, bombardaient des positions allemandes sur le nord de la Belgique, en Hollande, sur le nord de la France, et certains avions étaient touchés par la DCA allemande, certains avions étaient touchés, donc s'écrasaient au sol, et pour les aviateurs qui étaient souvent des équipages très nombreux, c'était 7-8 personnes, je vous expliquerai la composition des équipages. Souvent, l'avion s'écrasait au sol, mais il arrivait aussi que certains aviateurs pouvaient sauter en parachute. Le contexte, on vous parlait du contexte, André de Jean, le rôle du Royaume-Uni, le développement de la ligne DD, Comet Sud, ici, le passage à Bidassoa, le passage qu'on appelle la route intérieure, et aujourd'hui, notre association. Le contexte, 1940, voilà, vous avez ici une carte, c'est pour expliquer le trajet, la trajectoire qu'ont pu faire tous les aviateurs de l'organisation du réseau, et vous voyez que il aurait été bien plus facile, bien sûr, de l'Angleterre étant juste en face de Dunkerque, de pouvoir essayer de passer les aviateurs par Dunkerque directement en Angleterre. C'était pas possible parce que les Allemands ont toujours imaginez que les Alliés allaient organiser un jour un débarquement. Donc ils avaient déjà concentré, depuis le début de l'occupation, ils avaient concentré beaucoup de forces sur ce qu'on appelait à un moment donné la poche de Dunkerque. Donc il y avait beaucoup de forces, il était impossible de pouvoir passer par ce passage-là. Alors ici, vous avez la photo de Biarritz, l'arrivée des Allemands à Biarritz qui sont à la place Clemenceau. André de Jean. Alors, André de Jean, c'est une jeune femme de 24 ans, et elle a un ami qui s'appelle Arnold de Paix. Et André de Jean, elle apprend que des aviateurs sont cachés. Alors, ce qui s'est passé, quand les aviateurs sautaient en parachute, imaginez le scénario, 2 heures du matin, on a un aviateur qui malheureusement est décédé maintenant, qui nous a raconté tout ça. Il a sauté en parachute. La première chose que faisait l'aviateur, il était en pleine nuit, souvent dans les champs de patates, il nous disait, ils atterrissaient avec leur parachute. La première chose qu'il fallait qu'ils fassent, c'était plier leur parachute et se cacher immédiatement dans la première forêt, dans le premier bois qui était autour. Pourquoi ? Parce que ensuite, ils essayaient vite de partir parce que les Allemands avaient repéré la chute de l'avion et donc aussitôt les Allemands se mettaient autour de la position pour pouvoir essayer d'arrêter les aviateurs. Et arrêter. Alors, André de Jong a cette idée incroyable de son plus jeune âge, j'ai 24 ans, de réunir, d'essayer de regrouper tous les aviateurs avec un réseau d'amis qu'elle a sur Bruxelles. Et elle va récupérer ses aviateurs. Et pour commencer à engager le réseau, il fallait un petit peu d'argent quand même. Et là, commencer par vendre ses bijoux, parce que les aviateurs, ils étaient en tenue d'aviateur. Il a fallu commencer par les habiller, leur donner à manger. Donc avec un réseau d'amis, comme elle n'avait pas d'argent, elle a vendu ses propres bijoux pour avoir un petit peu d'argent pour commencer le début de ce réseau. Au départ, on parle ça s'appelait pas le réseau Comet, ça s'appelait la DD Line, la ligne de DD. Ensuite, elle a l'idée, tout de suite, elle sait que les alliés sont en position ici, à l'ambassade à Bilbao. À Bilbao, il y a un monsieur qui s'appelle Michael Creswell. Michael Creswell, qui est un jeune diplomate de l'ambassade britannique. Elle va prendre contact avec lui. Et alors, elle va venir le voir à Bilbao. Mais quand l'équipe de Creswell, la première fois que Creswell n'était pas là, quand ils ont vu débarquer cette jeune femme, elle leur a dit, écoutez, vous avez des aviateurs qui sont cachés en Hollande, on va les regrouper à Bruxelles, ils sont cachés dans des maisons à Bruxelles, on va essayer de vous les amener jusqu'ici. La première fois, ils n'ont pas cru. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est cette jeune femme, cette jeune fille qui vient ici nous raconter cette histoire, 23, 24 ans elle avait, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas pris au sérieux. Alors elle est repartie à Bruxelles, et puis elle avait un ami qui s'appelait Arnold Lepé. Et Arnold Lepé est un monsieur qui avait déjà fait des reportages ici avant la guerre sur les contrebandiers, en particulier Saint-Jean-de-Luz. Et donc, il s'est mis en relation avec lui. Et lui, il a dit, écoute, je vais essayer de te trouver deux ou trois contrebandiers qui connaissent un peu la montagne. Et tu vas pouvoir passer avec... Alors, elle est repartie à Bruxelles. Elle est revenue avec trois aviateurs. Elle est arrivée à Bilbao. Elle s'est présentée à Creswell. Et là, il dit, voyez, c'est possible. Vous voyez que c'est possible. Donc, les alliés ont réfléchi. Et les aviés, c'est pas compliqué pour eux. Former de nouveaux aviateurs, ça aurait pris beaucoup de temps. Ils avaient quand même en tête, dans leur esprit, l'idée du débarquement. Former de nouveaux aviateurs, le temps était trop court. Donc, ils ont décidé de mettre tout en œuvre pour récupérer les aviateurs par le biais de la proposition de André de Jong. Et cet accord n'a pas été un accord. On parlera d'argent. C'est pas un sujet tabou, l'argent au réseau Comet. Mais c'est un accord ils se sont serrés la main, ils ont dit OK, alors envoyez-nous tous les aviateurs. Voilà. Après avoir sauté de leur avion, abattu par les Allemands, les aviateurs avaient besoin de beaucoup de chance pour survivre. Ils devaient entrer en contact avec la population civile et espérer qu'ils seraient transférés à une véritable organisation de résistance, comme FI ou EVA, en Belgique, qui dirigeait à son tour vers Comet.
Oui, les Allemands veulent pénétrer le réseau Comet. De temps en temps, il essaie avec les faux évadés, mais il y a une sorte de test. Il demande quel théâtre ils ont vu la dernière fois à Londres, ou quelque chose comme ça. Qui a gagné la Coupe d'Angleterre en foot? Toutes les choses simples. Mais s'ils ne passent pas le test, ils sont pris de haut, c'est fini. Il y a un type, Monsieur George Duffy. Quand j'ai fait le premier week-end Comet en 2010, George était toujours là. C'est un homme remarquable. Il a oublié son disque d'identité pour le dernier vol. Il est sorti dans un champ de pommes de terre en PayPal à 1h le matin. Et soudainement, sa vie a changé beaucoup. Et pour les premiers 2-3 jours, il est resté dans un bois, marché pendant la nuit. Mais pendant la journée, il a Après 2-3 jours, il était peu fin et il a trouvé une maison comme ça et heureusement, ils nous ont aidés. Pourquoi j'ai parlé de cette histoire? J'ai oublié. J'ai une tête comme un fromage suisse pour le moment. Oui. Bon, prochaine.
Alors, donc, ils recevaient une nouvelle identité, ils étaient photographiés pour les faux papiers. Donc, ils ont commencé à s'organiser. Les premiers pas ont commencé à s'organiser. Et tout ça, là, bien sûr, avait un prix. Hein. On a dit qu'au départ, c'était les bijoux. Parce qu'il y a eu beaucoup d'amis d'André de Jean aussi qui avaient des moyens financiers, qui ont tout de suite l'ont soutenu financièrement. Mais après, c'est des alliés que des enveloppes d'argent vont arriver par Bilbao. Hein. On va vous expliquer ça. Alors, l'objectif est d'envoyer des aviateurs dans le sud-ouest de la France, plus précisément sur la côte basque, ne pourrait traverser les Pyrénées, entrer en contact avec les Britanniques depuis Bilbao, si je vous disais, mais se rendre en voiture diplomatique à l'ambassade de Mardic pour y être enregistré, puis à Gibraltar, pour être renvoyé par avion en Angleterre.
Oui, quand j'ai fini j'étais navigateur comme métier, et pour ma dernière mission à l'école, c'était au Gibraltar. Chaque fois que je vois ça, ça me rappelle que j'étais très heureux de pouvoir ça. Mais c'était pas pendant la guerre, je dois dire. Mais normalement, ils sont revenus en Angleterre à Gibraltar, quelquefois par un bateau de civil, par le Guadalquivir, cette petite rivière-là. C'était pour eux, pour trouver à Gibraltar après 100 jours sous le nez de les Allemands, c'était un vrai cadeau, ça.
Une fois entre les mains de Comet, la majorité des évadés prenaient le train. Bon, Bruxelles, Paris, vous attendez que Comet dessus leur donne le raccord pour prendre le train de nuit. Paris, Saint-Jean-de-Luz. Alors, je vous disais, il y a on va voir des aviateurs qui sont arrivés à Bayonne. Il y avait une famille à Bayonne qui les accueillait. Ils arrivaient aussi, parfois à Dax. À Dax, parce que c'était trop dangereux sur Bayonne ou sur Saint-Jean-de-Luz. Donc ils descendaient à Dax. Et là, il y avait tout un exercice, puisqu'il fallait que des aviateurs, il y avait des vélos qui les amenaient jusqu'ici. Ils venaient en vélo jusqu'ici, jusqu'à Anglette. Mais certains aviateurs savaient conduire les avions, mais ne savaient pas faire de vélo.
Oui, ça c'est vrai. Il y a en particulier un pilote B-17. Il descendait le train à Dax et Franco, notre guide, il était là avec 6 vélos. Il dit, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Il faut pédaler jusqu'au Bayonne, c'est loin. Oh, que de 50 kilomètres, c'est pas loin. Je peux pas. So, il a fait un essai de 10 minutes pendant le parking comme ça. Et après ça, ils sont pas les vélos comme aujourd'hui avec les fourchettes qui fait ça, des 21 vitesses et des freins disques, non. Les vrais. Non.
Alors là, vous avez la carte, donc on voit bien le tracé. On parlera aussi tout à l'heure du rôle de l'Espagne, hein, parce que il est évident que quand les aviateurs vous disent par Saint-Jean-de-Luz, on va vous dire ça, plus après par le Bastan, par Maya de Bastan, tout ça, il y avait le problème du franquisme en Espagne, hein. Il y avait le problème du franquisme. On vous dira que certains aviateurs ont été arrêtés, ont même été mis au camp de Miranda, ont été emprisonnés au camp de Miranda, mais toujours, sous la pression des alliés, toujours, ils ont fait marche arrière. Hein. Toujours, ils ont relâché quelques jours après les aviateurs. Hein. Il y avait les Espagnols, le franquisme, les Franco avaient quand même une certaine crainte par rapport... En fait, Franco... Entre 41 et 43, ils ne savaient pas trop qui c'est qui allait gagner la guerre. Donc, ils faisaient attention aux Allemands. Ils faisaient aussi, il y a eu là, en 36, le bombardement de Guernica. Donc, ils savaient, on connaissait sa position. Mais après, il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, oh là là, si ça tourne mal, voilà. Donc, ils ont enlevé la pression sur les aviateurs. Et ça fait que ils ont laissé sortir, enfin, sous la pression toujours diplomatique, les aviateurs ont pu sortir de prison, hein, voilà. Ici, vous avez une photo, ces deux aviateurs. Cette photo a été prise sur le bord de la Nive. À l'époque, elle n'était pas goudronnée, hein, c'est aujourd'hui. Le bord de la Nive.
Ça, c'est Time to Go, Elvira de Grief, un réfugié belge qui habitait à Villevoisin, ici, okay. À Bayonne.
from the
French. Ah, anglaise, pardon. Derrière, un anglais avec un beret, avec un visage anglais, très anglais. Et à côté gauche, il y a un autre anglais qui... Pour moi, j'ai jamais vu un Basque avec un visage comme ça, je dois dire. C'était... Oui.
On vous donnera les chiffres effroyables de cette incroyable épopée. Et on en parlait hier après-midi avec Jeff. Il y avait une affectation. Il y a eu, si vous voulez, sur... je vous donne un chiffre. Sur 328 aviateurs qu'on a identifiés ici, qui sont passés, vous entendrez tous les chiffres par rapport au passage de comètes. Il faut être assez précis. Nous avons comptabilisé avec Jeff 328 aviateurs. Et pour 328 aviateurs, entre 1941 et 1944, 259 personnes sont mortes au réseau Comète. Sont mortes fusillées au tir national de Bruxelles, au Mont-Valérien à Paris, ou sont morts dans les camps, dont 5 ici du Pays Basque. Je dis ça parce que 5 du Pays Basque, vous voyez, quand André De Jong recrutait des passeurs, des hébergeurs en Belgique et sur le nord à Paris, alors il est prévenu que les affectations étaient pour 6 mois. Parce que c'était plus facile ici de ne pas appliquer cette consigne. Pourquoi? Parce que Jeff t'expliquait que c'était par rapport à la...
Dans le Pays Basque, c'était simple. Dans un petit village, s'il y a un visage différent, on peut voir direct, bon, vous n'êtes pas d'ici, monsieur. C'est comme ça. Mais à Bruxelles, à Paris, la population, c'est très mixte. Et c'était très facile pour les Allemands pour infiltrer le réseau. C'est pour ça qu'il y a 259 qui étaient morts.
259, dont 51 femmes. 259 morts, dont 51 femmes. Après, l'autre élément que tu me disais hier, Jeff, c'était aussi la langue, aussi le basque. Oui. Les a protégés, la langue, parce que les Allemands comprenaient encore moins. Déjà, le français, il avait des difficultés, mais alors le basque, c'était la tête. Et puis, il y avait cette fameuse formule qu'on connaît bien au Pays Basque, « Itzaïs », quoi. C'est-à-dire que, voilà, oui. Personne n'a parlé. Personne n'a parlé. On a des familles de passeurs, quelques jours avant leur mort, Aïta, tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Rien. Ils n'ont jamais parlé. Ils n'ont jamais parlé. Donc c'était quelque part une protection. Voilà.
Si je peux parler du père de Dominique, il n'a jamais parlé à sa femme ou son fils qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre. Jamais. C'est incroyable. Mais c'est la seule méthode pour garder un secret. Parle pas.
Oui, des secrets de contrebandier, au départ, sont devenus des secrets de guerre. Après. Au départ, c'était des secrets de contrebandier. Hein. Personne ne parlait. C'est une règle empirique qui s'appliquait ailleurs en France et en Belgique, mais pas ici. Ce qu'on vient d'expliquer, cela nous amène à une différence importante entre les aidants de comète et les aviateurs. Les Allemands ont classé ceux qui ont aidé les aviateurs comme des terroristes, et pour eux, une fois arrêtés, leur avenir était vraiment sombre. Interrogation brutale, suivie de la déportation vers les camps en Allemagne. Alors, c'est vrai que les aviateurs avaient quelque part, il y a eu plusieurs conventions de Genève, ils avaient quand même une protection, même si certains, quand ils ont été arrêtés, ont été battus, mais quand même, ils n'ont jamais été exécutés par les Allemands. Les Allemands faisaient très attention, ils les ont mis dans des camps, ils les ont arrêtés, ils les ont mis dans des camps. Il n'allait pas de même la chose pour les civils qui étaient à Comète. Hein. Tous les civils qui ont été arrêtés, torturés, on vous donnera des explications tout à l'heure sur les lieux où ils ont été amenés, soit dans les postes des pelotons d'exécution, soit dans les camps de concentration. Comète Sud. Alors, on peut imaginer que c'est une organisation tellement, depuis Bruxelles, Paris, c'est immense, le territoire est immense. Donc, André De Jong a eu l'idée, ici, de mettre en place, de prendre des contacts avec, ici, Anglet. Anglet, j'ai dit l'autre jour dans le discours, Anglet entre dans la résistance grâce d'abord avec François Domer, le maire d'Anglet. François Domer est le maire d'Anglet et il fait partie du réseau, il est recruté au réseau Comète. François Domer va faciliter l'installation d'une famille qui s'appelle la famille de Greffe à la villa voisine. La villa voisine, elle est rue, je ne sais plus quelle rue, c'est derrière la place Lamotte, là. La résidence, maintenant c'est une résidence.
Ça va? La rue Marquis d'Argudier.
C'est ça, voilà.
Numéro 9.
Numéro 9. Donc, il a facilité l'installation de cette famille. Pourquoi? Alors là, il y a des personnages clés. Il y a Bobonne, c'est la grand-mère, on l'appelait Bobonne. Il y a Tante Go. Tante Go, c'est son nom de comète, hein. Tante Go, c'est, vous l'avez ici en photo. Et Tante Go, c'est elle qui va être l'organisatrice majeure de relais avec, entre la Belgique et ici. C'est elle qui va organiser toute Comète Sud. Elle a son mari Fernand. François Domain va recruter Fernand à la mairie. Pourquoi ? Parce que Fernand parle allemand couramment. Ensuite, ils ont deux enfants, Freddy et
Janine,
qui vont aider à accompagner les aviateurs. Et Tante Go, elle a, nous, quand on a commencé à faire nos recherches sur le passage de l'intérieur, d'Espelette, on a eu accès, elle avait des cahiers d'écoliers. C'est un truc de fou, parce qu'elle avait des cahiers d'écoliers, elle a noté sur ses cahiers d'écoliers le nom des passeurs, le nom de tous les aviateurs. Elle cachait ça dans la villa voisine. Imaginez si les Allemands étaient tombés là-dessus. Elle a tout répertorié. Toute l'activité de 1541 à 1544, elle les a repérées, écrites sur des cahiers d'écoliers qu'elle gardait précisément à la villa voisine. Alors aussi, elle avait une couverture. Elle faisait du marché noir. Elle faisait du marché noir, Tante Go. Et elle a été arrêtée alors, quand on dit marché noir, c'était souvent du marché noir pour les Allemands. Alors, elle s'est débrouillée pour acheter du champagne qu'elle revendait aux Allemands. Par exemple, du champagne, du foie gras, des trucs, voilà. Et quand une fois elle a été arrêtée à Saint-Jean-Pied-de-Port, elle est arrêtée, aussitôt, elle avait un numéro de téléphone, elle a appelé ici, en anglais, un officier.
Un général
allemand. Elle dit, oui, je viens de me faire arrêter, là, mais en fait, je suis en train d'acheter du champagne, des foie gras et tout ça pour vous, là, en anglais. Ah bon, alors, il peut me laisser la tranquille, alors voilà, elle a été lâchée comme ça. Elle était très, très maligne, Tante Go. Très, très, très maligne. Voilà la villa voisine qui est devenue résidence. C'est vrai que c'est la plaque qui avait, il y a toujours, qui était à l'époque de la villa voisine.
C'était pas là à l'époque.
Hein? C'était pas là?
Ça, non.
Non, c'était pas là. Alors, autre personne importante aussi, à la place de la Motte, il y avait une petite épicerie que certains ont connue, Madame Salias. Léontine d'Anglade avec son épicerie. Et Léontine d'Anglade avait, caché dans les boîtes de biscuits des messages pour les passeurs. Voilà. Après, on avait, le week-end, il y a 15 jours, on était avec Madame Morel, qui est une dame qui a été élevée par Comète, donc, bref, elle est venue ici à l'école, et c'est Léontine Anglade qui l'avait inscrite à l'école. Elle était à la place de la Motte. Autre personne qu'on n'a pas citée là, qui avait un rôle important, c'est l'abbé Urusti. L'abbé Urusti était le prêtre de l'église de Saint-Léon, c'est ça l'église Saint-Léon, là ?
Oui.
C'est ça ? C'était un prêtre, l'abbé Jean Urusti, qui était prêtre réfugié de la guerre d'Espagne, et il a caché des aviateurs. Voilà. Alors tout ça, vous voyez, c'était François Domain, maire, monsieur De Jean, qui était monsieur De Greffe, qui parle allemand. Il y a une personne que j'ai oubliée. Au standard, ils avaient mis Jules Mendiburu, qui parlait basque, au standard. Vous voyez, c'était toute une organisation comme ça. Voilà, bien sûr, dans le plus grand secret. Jules Mendiburu parlait basque et pouvait transmettre des messages en basque. Il était standardiste à l'époque, à la mairie. Alors, les aviateurs, la question qu'on se pose depuis qu'on est dans cette histoire, comment, alors, les aviateurs arrivaient à la gare de Bayonne. Comment savait-il que des aviateurs allaient arriver à la gare de Bayonne? Les téléphones étaient très peu utilisés, sur Internet, mais il n'y avait pas. Ça, c'est une question qu'on n'a toujours pas élucidée. C'est ça, Jeff?
Oui, c'est ça. Parce que pour chaque petit groupe d'aviateurs qui arrive à la gare, il faut avoir immédiatement une maison où il peut rester le soir. Il ne peut pas rester dans un café ou faire une randonnée toute la nuit. Ce n'est pas possible. Avec le curfew, c'est quoi, couvre-feu? Oui. Ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, ça. Sans SMS, sans téléphone, fax, email, incroyable. Je ne comprends pas.
Pour revenir, on n'occupe pas volontairement, mais c'est vrai que la Belgique, Bruxelles, Paris, il y a eu des aviateurs étaient accompagnés par des membres du réseau. Il y a une grosse organisation sur la Belgique, sur Bruxelles, sur Paris, des accompagnateurs. Souvent, les accompagnateurs les accompagnaient jusqu'ici à le train. Hein. Ils ne venaient pas tout seuls, les aviateurs. Hein. Ils arrivaient toujours accompagnés par des membres du réseau. Il y a quelque temps, le président de la République, l'année dernière, a remis a rendu hommage à Odile Vasselot. Odile Vasselot, c'est une dame qui, à la suite de la cérémonie du 14 juillet, il est allé la saluer. Odile Vasselot a 102 ans. Elle était à la frontière belge et française. Donc, ça a été un personnage très important qui a passé beaucoup d'aviateurs, vous voyez. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on parle beaucoup de l'autre comète sud, mais il y a bien sûr toute cette organisation qui est de Bruxelles, Paris, voilà. Paris et direct Bordeaux, tout ça par les trains, qui s'étaient accompagnés. Alors, les aviateurs, parfois, ils arrivaient à la gare de Bayonne. À la gare de Bayonne, il y avait une opération water. C'est-à-dire qu'il y avait des toilettes. Il y avait une porte un peu secrète, dérobée, là, qui était utilisée que par la SNCF et par les aviateurs. Les aviateurs sortaient par là. Là, très souvent, c'est Lucien Dacier. Lucien Dacier, la famille Dacier à Bayonne. Alors, la famille Dacier habitait en venue du Verger de Oran. Il y a monsieur et madame Dacier et leur fille Lucienne, qui font partie du réseau Comète. Monsieur Dacier, il travaillait à la poste, au PTT, donc il était très très bien renseigné, et ils accueillaient les aviateurs. Lucien Dacier avait 16 ans, elle prenait l'aviateur sous son bras, elle lui faisait traverser le Pont Saint-Esprit, voilà la photo, une photo, et elle accompagnait, pour le secteur de Bayonne, elle accompagnait les aviateurs à manger au restaurant chez Gachy, chez le restaurant de Guernica, actuellement ça s'appelle le Guernica, place Saint-André. Là, René Gachy avait fait un pari pour défier, parce qu'il avait fait la guerre de 14, et pour défier, il avait une haine des Allemands, il s'était promis de faire manger les aviateurs dans la même salle que les Allemands. Paris l'a fait, il n'a jamais eu de problème. Si, il y en a eu un problème.
Mais, comme toujours avec les Anglais, il y a un problème avec la bouffe. Parce que Tante Gore, souvent, elle veut faire manger les steaks pour les aviateurs parce qu'il faut être
costaud
pour les montagnes. Et il y a des 6 beefsteaks arrivent et un des Anglais commence à couper et il y a des 7 machins rouges qui arrivent. C'est quoi ça? C'est pas cuit. Il y a un petit chien dans le coin. Il a pris son steak et allez. Il y a un officier allemand qui regardait ça. Oh, très intéressant. Tante Go, elle a des antennes. Ses yeux qui voient tout. Il dit, finis les plats maintenant, laisse les couverts, on va. Et heureusement, elle était comme ça. Une tête qui marche très, très vite. Mais ça, c'est le bar Guernica.
Guernica, parce que c'est André.
On va là souvent pour manger.
Voilà.
même le steak.
On reviendra après sur cette famille d'acier à Bayonne, dans une tragédie qui s'est déroulée plus tard. Les maisons sur. Voilà la maison des Daciers qui est à l'avenue du Verger d'Oran. Je ne sais pas si vous voyez le rond-point qu'il y a à l'ancien pont de fer. Il y a un caviste là, la villa il y a un garage. On la voit plus la maison parce que le garage il a construit devant.
C'est pas loin des archives.
Des archives, en face des archives départementales. La famille Dacier habitait là. On va y revenir tout à l'heure pour leur arrestation. Ça, c'est la rue Bernadou. Rue Bernadou, c'est à côté des Halles. Alors pourquoi cet immeuble? Parce que dans cette maison, il y a monsieur et madame Lapeyre. Monsieur et Madame Lapeyre, Yvonne et Robert Lapeyre. On va vous raconter l'arrestation qu'il y a eu après à Urugne. Les Allemands sont arrivés un matin pour les arrêter, à Monsieur et Madame Lapeyre. Manque de peau, ils se sont trompés d'étage. Ils ont arrêté une famille qui s'appelle la famille Dichary. Bon, eux, quand ils ont vu ça tout de suite, Yvonne et Robert, tout de suite, ont pris leurs affaires et sont partis par le passage à Bidassois. On rejoint Madrid, Gibraltar, Londres. Yvonne Lapeyre était au secrétariat du général de Gaulle et Robert lui s'est occupé des forces françaises, il organisait les forces françaises depuis Londres. Voilà. La famille Dichary, bien sûr, les Allemands ont commencé à les interroger, ils ont dit qu'ils ont vite compris qu'ils n'avaient rien à faire, qu'ils ne comprenaient rien de ce qu'on leur disait, donc ils ont été relâchés aussitôt. Voilà. La villa, alors là, Christian Saldias, l'auberge là. On va vous parler de l'auberge Lard. L'auberge Lard est située Elle est exactement comme ça, cette maison encore. Elle est située au carrefour de l'école de Sutard. On va vous raconter après l'école de Sutard. Il y a l'école et après, il y a cette auberge-là. L'auberge-là, où était Christiane, où sa tante Marthe Méniara tenait cette auberge. Marthe Méniara, entre 1943 et 1944, va cacher 156 aviateurs dans cette maison. Quand on peut la visiter, parce que le locataire, ça dépend du locataire, au rez-de-chaussée, là, elle avait un comptoir pour donner à manger aux Allemands. Et sous son comptoir, il y a une trappe qu'on peut voir, qu'on peut visiter encore. Et là, elle cachait les aviateurs sous ses pieds, tout en donnant à manger aux Allemands. Et aussi, elle les cachait au grenier. Alors, 156 aviateurs, on verra tout à l'heure que sur le passage de la Ressort, on a 128 aviateurs. Il y a un décalage, c'est plus sur les 26 aviateurs d'écart sont passés par la vie d'Assois. L'auberge Labre, Marthe Méniara. Christiane, vous voulez dire un mot de votre tante?
Bonjour à tous. Bon, voilà. Moi, je ne suis ni professeur, ni journaliste, ni rien de tout ça. Je suis moi, je ne peux vous parler que ce que moi j'ai vécu. Et je peux vous dire que sur Anglette, il y a eu des gens très intéressants. Monsieur Domain, bien sûr, mais n'oublions pas Julot, surtout. Julot, monsieur Echeverry, Fernand Echeverry, qui était secrétaire de mairie à ce moment-là, et un peu plus tard, monsieur Puyade, qui ont fait beaucoup de choses pour tous ces gens. Et les faux papiers, les fausses cartes de ravitaillement que j'allais chercher, là. Après, pour Léontine, là, je suis pas très sûre de tout ce qu'ils ont fait, mais enfin, elle a participé également. Mais on a eu des gens quand même qui étaient très dévoués et qui ont fait beaucoup de choses. Bon, moi, mon rôle, c'était d'aller chercher les messages. Alors, j'allais dans une boulangerie à Arkhang où le garçon de qui faisait le pain, là, qui était, parce que le patron était prisonnier, me mettait des messages dans le pain et je reportais jusqu'à Sutard, donc à peu près 10 kilomètres. Je revenais en vélo porter ces messages à ma tante. Alors, s'il y avait une fenêtre, une ficelle qui pendait à la fenêtre, je pouvais rentrer, c'est que c'était libre, parce que les Allemands, ayant la commandature à 3 kilomètres à Bassussari, venaient consommer là au restaurant. Alors, si la ficelle était là, je pouvais rentrer. Si la ficelle n'était pas là, je me retournais chez mes parents et je gardais les messages. Après ces messages, quand elle les avait ouverts, j'allais emporter quelques-uns à Bassussari, au moulin qu'on pouvait visiter aujourd'hui, le moulin de Chourmilage, où était Monsieur Mastérena, Beignat Mastérena, et c'était lui qui prenait contact, qui allait, il avait une vieille moto, une terreau, c'était à l'époque, je ne sais pas si vous, il y en a parmi vous qui ont dû connaître ça, mais il allait porter ses messages aux passeurs pour leur dire quel jour il fallait venir chercher les aviateurs qui étaient là à l'auberge. Mais les passeurs ne venaient jamais au restaurant. On amenait les aviateurs soit au bord de la Nive, parce qu'on pouvait traverser à travers les jardins de mes parents et grands-parents, soit aux salines de Sutter, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais elles existent toujours, mais elles ne marchent pas. Il y a des salines à Anglette quand même. Et donc, ils venaient les chercher là, ces aviateurs, ils les accompagnaient. Après quelques fois, on est arrivé, on parlait à la gare. Moi, à la gare, j'ai été en chercher, je pense, 5 ou 6. Au départ, je sortais par la synagogue avec eux. D'une gamine, moi, 14, 15 ans, vous savez, on sortait par la synagogue. Et quand les Allemands sont rentrés dans la synagogue qui donne sur la gare, ils avaient tellement pillé tout ce qu'il y avait dedans, qu'il a fallu, on a changé et on est sorti par les toilettes du personnel de la gare. Voilà. Après, bon, c'est des petites choses. On a eu après, on a eu été aussi avec mon frère, donc Dominique et Jeff vous en parleront, dans ce cabanon qu'il y avait en haut de la Ressort. Donc, on a eu été là parce qu'il y avait quelques aviateurs qui partaient en vélo jusque-là, pas plus loin. Je ne connais pas plus loin. Qui venaient jusque-là et on allait chercher ces vélos. Parce qu'il y avait Monsieur Bidard, le boulanger de la Ressort, qui en ramenait. Mais comme il avait Il avait des cartes pour avoir de l'essence, des bons d'essence. Il n'en avait pas suffisamment pour en amener souvent. Et alors, quelquefois, quand il en manquait, on allait chercher ses vélos et on les amenait chez Monsieur Claverie à la rue Tournesol, qui était un cycliste qui avait en bas de la rue Tournesol à Bayonne et qui les réparait, qui les faisait repartir. Souvent, c'était Monsieur Elorga. Je vais vous parler d'eux, de Monsieur et Madame Elorga, qui étaient...
On va en parler.
Oui, vous allez en parler, Dominique. C'était les têtes pensantes du réseau du coin d'Anglet, ces gens-là. Ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Parce que eux, c'était les têtes pensantes. Ma tante était l'exécutante. Mais c'est vrai qu'on se laisse un petit peu bouffer par tout ce qui arrive à côté. Et on ne nous laisse pas s'exprimer. C'est dommage que je sois la seule survivante. Et que, comme je suis née en 1929, vous savez, il y a des choses qui sont parties un petit peu plus loin. Voilà.
Merci, Christiane. Ça va. Alors, les aviateurs arrivaient par Bayonne, à Bayonne. Ils arrivaient aussi directement à Saint-Jean-de-Luz. À Saint-Jean-de-Luz, ils sortaient de la gare et il y a une personne, personnage historique de Comète, qui s'appelait Catherine Aguirre, qui habitait à Cibourg. Catherine Aguirre, à Saint-Jean-de-Luz, elle travaillait à l'hôtel Escuaduna. En face de la gare, c'est une résidence maintenant, il y avait un hôtel Escuaduna, elle travaillait là, dans cet hôtel. Et cet hôtel, elle avait été hébergé beaucoup de réfugiés de la guerre d'Espagne, des réfugiés basques, hein, qui avait combattu le franquisme, qui était dans cet hôtel. Et ça a été l'occasion pour Catherine Aguirre de recruter, pour Comète, des passeurs, donc Florentino Goicoechea, on va en parler, personnage mythique du passage à Bidassoa, et d'autres membres de réfugiés qui sont rentrés à Comète, comme Cestona, enfin, on a toute une liste de gens. Donc c'est Catherine Aguirre qui les a recrutés. Ça, c'est sa maison où elle habitait, à Cibourg.
C'est rue de Dr. Misset.
Dr. Misset, voilà. Vous le verrez, ceux qui regarderont l'émission mercredi soir, Des Racines et des Ailes, on a tourné dans cette maison. Vous le verrez mercredi soir, là, sur la 3. Ici, c'est la ferme Bidegameri. Oui. Bidegameri, on va y venir tout à l'heure. Il y a eu un drame, une arrestation. André Dejean a été arrêté là. Et Bidegameri, c'est la ferme de Francia Usandisaga. Francia Usandisaga, qui était veuve, qui avait 3 filles. Et qui a été arrêté là, on va y revenir tout à l'heure. Ici, c'est la ferme Sarobé. Nous sommes là, sur le passage de Saint-Jean-de-Luz. C'est la dernière ferme que les aviateurs arrivaient à Oyarzun. En fait, les aviateurs y faisaient Cibourg, maison de Catherine Aguirre, que vous avez à ma gauche. Urugne. On a fait la marche qu'on fait tous les 2 ans, hein. Col d'Ibardine. Choldo-Bouganina. Col des Poiriers, on descend sur Biriatou, on traverse la Bidassoa, comme faisaient les aviateurs, et là, premier jour, stop. Le lendemain, on repart de la Bidassoa, du bord de la Bidassoa, et on a 5 heures de marche pour arriver à cette ferme Sarobé, qui est à Oyarzun.
Oui. Il y a une grande différence. Nous, on fait ça en 2 jours de marche. Deux jours. Les pilotes, ils font ça dans une seule nuit. C'est beau jusqu'à ferme Sarobé. Je ne peux pas imaginer ça. J'ai parlé de George Duffy avant, le type qui est arrivé dans une chambre de pommes de terre 1 heure du matin. Quand il fait le passage de Vidassoa, c'est sous la pluie. Il a marché pour 14 heures sous la pluie. Et ça a marqué pour la vie. Chaque année après la guerre, il est revenu avec sa femme jusqu'à sa mort. Il a décédé il y a 3 ans. Et il a arrêté de venir en 2017, comme ça.
Donc, Florentino Goicoechea, on va amener les aviateurs à cette ferme Sarobé. Tous les 2 ans, quand on fait notre marche commémorative, on arrive à cette ferme et la petite fille Paco Iriarte, sa fille donc, chaque année, enfin tous les 2 ans, nous fait, nous prépare pour tous les marcheurs, tous nos randonneurs, prépare le même menu qu'elle donnait que ça, ses parents donnaient aux aviateurs, c'est-à-dire omelette, ils faisaient du cidre, tortilla, tout ça. On a le même menu que les aviateurs. Quand les aviateurs arrivaient là, souvent les sandales étaient très abîmées. Alors, la maman de Issiar réparait leurs sandales. Et surtout, comme ils étaient souvent trempés de sueur ou même avec la pluie, leurs vêtements étaient trempés et sales. Elle lavait tout de suite leurs vêtements. Elle les faisait sécher près de la cheminée. Et pour que le lendemain matin, quand ils repartaient, après s'être reposés pour aller vers l'Espagne, ils étaient déjà en Espagne, mais pour aller vers Saint-Sébastien, elle leur disait, limpia para la libertad, il faut que vous soyez propre pour la liberté.
Il y a beaucoup. Beaucoup.
Alors, tous les aviateurs.
Il y a, c'est quoi le nom de ce film avec Steve McQueen, en anglais, c'est The Great...
La Grande Vadrouille. La Grande Évasion.
Oui.
La Grande Évasion.
Ça, c'était 76 prisonniers qui étaient échappés.
C'est 326 aviateurs. Oui. Alors, tout à l'heure, on parlait des chiffres. Vous entendrez 700 aviateurs, le réseau Comet a passé 700, 800 aviateurs. Bon. Des aviateurs ont été pris en charge par Bruxelles, Paris, mais n'ont jamais traversé les Pyrénées. Ils sont restés, par exemple, si vous allez au château de Chambord, il y a une forêt, la forêt de Freteval. En 43, les Alliés ont dit, bon, stop, c'est plus la peine de faire passer les aviateurs par la montagne basque. On a assez d'aviateurs. Donc, les aviateurs organisés par la résistance française sont restés cachés dans des forêts. Donc, la forêt de Freteval, au château de Chambord, ils sont restés des centaines là, cachés, en 43. Donc, c'est, si vous voulez, pour la Belgique, ce chiffre, oui, il est vrai. Il y a 700, 750, 800 aviateurs. Mais, donc, ils sont restés, ils n'ont pas traversé la montagne basque. C'est la différence que nous avons. C'est pour ça, nous, avec Jeff, on a 326. Mais en fait, moi, je compte 328, il en compte 326. On a un problème avec deux aviateurs. Mais je pense que ce sont deux espions. Mais
il y a un monsieur dans le coin, là.
À droite. Ah oui, c'est oui. Tim Covington.
Oui. Son fils était là avec nous il y a deux semaines. Et il était là à Mandeschenecke-Borde où son père... Il est resté là pour caché. Quelques jours. Et c'était très émouvant. Il y a beaucoup d'histoires humaines comme ça.
Alors, je reviens sur le passage à la Bidassoire. C'est 41 à 43. Voilà des maisons dont on vous a parlé. Cibourg, chez Catherine Aguirre. Voilà, Saint-Michel-Té, c'est tout ça. C'est des, en Borussia, Saint-Michel-Té, c'est des réfugiés qui sont rentrés pour matin. Et voilà, et ils se dirigeaient vers la ferme Bidegemery. Donc, c'est à Urune, chez Franchier Moussandizaga. On va vous parler. Alors ici, le passage, Catherine Aguirre était très amie avec Florentino Goicoechea. C'est le passeur mythique de la Bidassoa. Un personnage incroyable, une force de la nature, qui connaissait donc depuis Cibourg jusqu'à Oyarsoum. Donc ça fait 8-10 heures de marche, la montagne parfaitement, comme tous les autres d'ailleurs. Ils connaissaient tous la montagne. C'était des spécialistes de la montagne. C'est vraiment, quand les organisateurs de comètes les ont contactés, ils ne se sont pas trompés. Ils leur ont dit, il nous faut des spécialistes en montagne. En fait, c'était tous des contrebandiers. Ils connaissaient très très bien la montagne. Et alors, il y a une histoire fabuleuse avec Florentino. D'abord, toujours, Madame Morel qui était avec nous, sa tante Elvira, elle a traversé la montagne, elle s'est brisée la jambe et Florentino l'a prise sur son dos, l'a amenée jusqu'à la ferme. Ça a roulé 5 heures, il l'a amenée sur son dos pour qu'elle puisse se passer en Espagne. Voilà le genre de personnage. Après, il avait des endroits, des creux, c'est comme dans les films, quoi. Il avait des troncs d'arbres où il cachait des bouteilles de cognac. Et quand les aviateurs étaient un petit peu fatigués, ils tournaient général et ça donnait un coup de fouet pour continuer à marcher parce que c'était très éprouvant, surtout pour les aviateurs.
Il y avait une autre histoire.
Alors la fameuse histoire, c'est quand il a été reçu.
Il a mangé des...
Ah oui, alors il avait un problème, c'est André Dejean qui raconte ça, qu'il fallait se lier. Florentino, est-ce que vous avez mangé des haricots rouges? Oui, alors là, c'est une catastrophe. Il fallait qu'elle reste toujours à 10 mètres de lui parce que.
Il faut être silencieux dans les montagnes. Et lui.
Incroyable, personnage incroyable. Alors il a été reçu à Londres, à Buckingham Palace, c'est ça, par le roi George V qu'il a noblé, et pour tout son courage. Et puis il était aussi avec Catherine Aguirre, les deux ont été anoblis par le roi George V. George VI, pardon. Et avant de rentrer dans la pièce où le roi allait les récompenser, il y avait une pièce avant. Et il y a un monsieur qui était là, il fait à Florentino, mais dites-donc, monsieur, mais qu'est-ce que vous avez fait vous, pendant la guerre? Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Et Florentino regarde et dit, c'est, qu'est-ce, parce qu'il ne parlait pas français, Florentino, basque, espagnol, mélangé, tout ça. Et qu'est-ce que c'est? Il lui dit, Catiani, il te demande, Catiani, il lui dit, mais il te demande ce que tu as fait pendant la guerre. Moi, monsieur, j'étais dans l'import-export. Voilà, une carte d'habit à soie, donc je vous disais tout à l'heure, Urugne, enfin, Cibourg, Soukoua, Urugne, Bidegemery, ferme Bidegemery.
C'est un peu
Colibardine, tout ça.
Un peu compliqué, cette
carte. Hein, oui. Pas trop, du chef, il aime pas trop. Alors, nous allons venir aux tragédies. Première tragédie, le 15 janvier 1943. Dans cette ferme Bidegemery, dont je vous disais, il y avait Franchet Oussandisaga qui vivait là avec trois enfants, trois filles. 8 ans, 10 ans et 12 ans, dont une de Madame Goya, qu'on aperçoit de temps en temps dans nos commémorations. Il y avait dans cette ferme, ce matin-là, André Dejean était là avec trois aviateurs. Et Franchet avait recruté un ouvrier de ferme qui s'appelle Emmanuel Larbourou, qui travaillait, qui l'aidait à la ferme parce qu'elle était veuve. Les Allemands, alors, qu'est-ce qui s'est passé? On peut le dire. Ils ont été dénoncés et les Allemands ont débarqué un matin, le 15 janvier 1943. Ils ont arrêté Francia, André Dejean, les trois aviateurs, et Emmanuel Larbourou. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une ferme un peu plus loin, avec un ouvrier de ferme qui s'appelait Donato. Donato était, bon, allez, on était assez amoureux, disons, de Francia. Et il était très jaloux que Franchet ait recruté ce garçon, Manuel Larbourou, qui était venu travailler à la ferme pour l'aider. Il était très jaloux de ce monsieur. Et donc, il les a dénoncés aux Allemands. Après la guerre, nous, les archives qu'on a eues à Bruxelles, partout, Royal, on a, Donato a disparu. Voilà. Disparu. Bon. Disparu. Oui. Bref. Alors, ça a été terrible parce que Franchet Oussandisaga a été conduite. Bon, vous savez, tous les gens qui étaient arrêtés, la porte qui, après, c'était la destination des camps de concentration, ils étaient tous recrutés au Fort du Hua après. Ils étaient rassemblés au Fort du Hua à Bordeaux. Franchet est partie au Fort du Hua et elle a été amenée au camp de Ravensbrück. Je vais venir après dans la même baraque, entre guillemets, que Lucien Dacier qui avait 16 ans. Je vais y venir après. Francia, elle était physiquement très affaiblie, terrible pour elle, veuve. Ses trois petites filles qu'elle avait laissées là, dans cette maison, dans sa maison, ça a été terrible pour elle. Et on a su par Lucien Dacier qui était avec nous à notre assaut et qui est décédé en 2015, elle était affaiblie. Par exemple, elle arrivait, elle fabriquait des, elle priait toute la journée. Elle était abattue par cette histoire. Elle vivait ça comme un abandon de ses enfants alors qu'elle avait été arrêtée. Mais elle fabriquait des chapelets, elle priait. Lucienne nous disait, il faut que tu réagisses plus que ça. Bon, affaiblie physiquement, elle a été, je passerai les détails, elle a été abattue à coups de crosse par un responsable du camp. Bref. Manuel Larbourou, lui, a été amené au camp de Buchenwald.
Buchenwald.
Les trois aviateurs.
Oui, Stanhope. Percy Ross et Bill Greaves.
James, oui, les trois. Oui. Les trois ont été arrêtés, mais ils ont bénéficié.
Protégés par la Convention de Genève.
Convention de Genève.
Direct dans une Stalagluft. Voilà. Jusqu'à la fin de la guerre.
Voilà. André Dejean a été arrêté. Oui. André Dejean a subi 19 interrogatoires. Elle aura toujours dit, c'est moi qui ai créé la DD Line, la ligne d'évasion. Les Allemands n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais pu imaginer, ils n'ont jamais imaginé qu'une jeune femme comme ça puisse organiser un truc pareil. Et à la fin, elle a été au camp de Ravensbrück, oui. Mais elle a été libérée, elle s'en est sortie, André Dejean, elle a été libérée en avril 45.
Oui, après Ravensbrück, elle était envoyée sous condition de Nacht und Nebel vers Mauthausen. Le pire de tous les camps, Mauthausen, en Autriche. Il y a une carrière là. On ne parle pas de ça.
Voilà, je disais, elle était tourgée 19 fois. Il était interné dans plusieurs prisons, dans lesquelles je n'avais pas vu ça. Nous remettons maintenant. Alors, Fanchon Saint-Nissaga, quand on fait les commémorations, on s'arrête au... Alors, le problème qu'on a dans, sur ce passage, c'est que la famille qui habite aujourd'hui la ferme Bidet-Guémery, ils veulent pas, ils n'ont rien à voir avec Comet, donc on s'arrête même pas. Mais par contre, on s'arrête, puisque au moment aux morts de Rune, il y a notre Fanchon Saint-Nissaga. En même temps, le 11 mars 43, la famille d'Acier est arrêtée à Bayonne. Les Allemands arrivent chez monsieur et madame Dacier, où il y a leur fille Lucienne, alors Jean-Édouard Dacier, Cyprienne, la maman, Lucienne. Et ici, on a mis la photo de Jean. Jean, c'est le, que vous avez connu beaucoup d'Anglois, c'est l'ancien président, celui que j'ai remplacé. Jean a été, c'est le créateur, le fondateur de notre association. Il a créé cette association en 2003. Il a toujours présidé, et voilà, et c'est moi qui ai pris sa place. Mais il est toujours pas très loin de nous, parce que toujours, on en garde à l'esprit ce monsieur, ce cher Jean, qui nous a toujours beaucoup marqué. Il est toujours à côté de nous. Et donc, alors, Jean avait 7 ans. Les Allemands sont arrivés. Monsieur Dacier, il a eu le temps, il était amputé d'un bras. Il a fait la guerre de 14, monsieur Dacier. Il était amputé d'un bras. Et pour lui nouer la cravate, c'est Lucienne qui lui a noué la cravate et lui a glissé dans l'oreille. Dans le jardin, voilà, il y avait un truc dans le jardin qu'il fallait absolument que quelqu'un récupère. Et là, Jean a entendu ça, bref. Donc ils ont été arrêtés, monsieur et madame Dacier et Lucienne. Monsieur Dacier a été amené au camp de
Ravensbrück. Sorry, Buchenwald.
Buchenwald. Et en 1945, à la libération, il était mourant. Il a été donc libéré, mais mourant. Il était hospitalisé à la Salpêtrière à Paris. Et il est mort à la Salpêtrière. Il n'est pas revenu. Il n'a pas pu revenir à Anglette. Enfin, à Bayonne, quoi. Cyprien, son épouse, en 45, elle est revenue à Bayonne. Elle a vécu 2 ans. En 1947, elle est morte des suites de sa déportation. Et Lucienne Dacier, elle, s'en est sortie. Et Lucienne avait 16 ans. 16 ans. Elle était, donc, là, toujours après, elle a fait sa vie à Bayonne. Et puis, elle a toujours été dans les écoles, raconté les histoires, l'histoire de Comet. Elle a toujours été un grand témoin. Et elle a participé à la création de l'association avec son frère, avec Jean, famille d'Acier. Elle est décédée, Lucienne, en 2015. Un personnage, c'est ce genre de personne, vous passez une heure avec elle, vous vous en souvenez toute votre vie. C'est des gens comme ça qui vous marquent, vous savez. Et que son regard, elle avait un regard, elle avait des yeux bleus. Et puis de ces histoires qu'elle a, tout ce qu'elle a vécu à l'âge de 16 ans, comme beaucoup d'autres, mais c'était incroyable, incroyable. C'était quelqu'un qui vous marquait profondément quand vous l'avez rencontré, quand on l'a rencontré. Un autre drame s'est déroulé le 23-24 décembre 1943, on est à la Bidasso. Alors, ce soir-là, Florentino, passeur, est malade, est souffrant. Donc, au dernier moment, on fait appel à deux passeurs qui ne sont pas aussi expérimentés que lui, mais il fallait bien passer les aviateurs. Première erreur, ils étaient un groupe de 10. Alors c'est Jean-François Sandoton. Quand on parle de Franco, alors il y a André Dejean, et numéro 2, c'est Franco. Franco, ça n'a rien à voir avec les Espagnols. C'est Jean-François Sandoton qu'on appelait Franco. Jean-François Sandoton, dans ce groupe, il y avait Jean-François Sandoton, il y avait...
Martin Eraskin et Manuel Cestona.
Cestona, deux passeurs. 3 agents français, dont le papa d'un monsieur qui est venu il y a 15 jours, monsieur Ancia, là, il était là.
Qui?
Monsieur Ancia.
Oui. Albert Ancia.
Voilà. Donc, le problème, c'est qu'il faisait, c'était la Bidasso a été en crue, terrible. Florentino ne serait pas passé. Florentino ne serait pas passé par là. Il aurait été beaucoup plus haut. Il avait un autre passage. Bon. Eux se sont engagés dans la rivière. Et, malheureusement, ce soir-là, il y a deux personnes, le comte Durcel, Anton Durcel, qui est un membre du réseau Comet, qui allait faire des liaisons entre Bruxelles et Bilbao, qui faisait des liaisons, qui s'est noyé, et s'est noyé aussi Jim Birch, jeune aviateur américain.
Oui. Le problème cette nuit, c'était l'état de la rivière, parce que on a vu ensemble la rivière. C'était comme la mer, avec des vagues. On est venu en 2018, parce qu'une famille d'Américains qui arrive, et on fait un petit tour pour montrer. Parce que le père de cette dame était présent cette nuit.
Oui, Stanford. Non, Stanford.
Il a des vagues sur la rivière incroyables à voir. Et pour les comtes de sel qui étaient se noyés cette nuit, il avait...
malaria, il avait chopé la malaria. Il était malade, il avait attrapé la malaria, mais oui. Il était déjà affaibli physiquement.
Il est arrivé à la bord de la rivière, 1h le matin, couvert avec le soir comme ça, il a commencé comme ça, il faut descendre dans la rivière pour traverser. Et Jim Birch, le copilote, quand il a sorti son avion, comme ça, il a roulé sur le long de la fuselage, et un côté de son corps, c'était combiné. Bleu, noir.
Bâton.
Et il peut pas marcher, mais il faut descendre dans la rivière. Comme Dominique a dit, Florentino était là, il va plus haut, vers le nord.
Voilà. Donc, le lendemain matin, les deux corps ont été retrouvés sur les berges, ont été récupérés par les Allemands. Ces deux corps du comte Anton Bursell et de Jim Birch, les Allemands les ont exposés à l'entrée de l'église de Biriato sur deux échelles. Et le village, en leur disant aux villageois, voyez, si vous aidez la résistance, ce qui va vous arriver. Et le village, toute la journée, toute la soirée, toute la nuit, ont couvert les deux corps de fleurs. Le lendemain matin, quand les Allemands ont vu ça, furieux, ils ont fait disparaître les corps. On n'a jamais retrouvé leurs corps. Jamais, on ne sait pas. Et pour continuer cette histoire, nous, au début, Jeff, on n'était pas dans l'assaut, et une dizaine d'années, la famille Durcel avait érigé une stèle à côté, au bord de la Bida Soa. Il y avait des problèmes, parce que souvent, avec la crue, la Bida Soa, elle était emportée, bon, bref. Et nous, quand on a débarqué avec Jeff et une nouvelle équipe, là, on s'est dit, mais quand même, c'est très bien ce qu'a fait la famille Durcel, mais il n'y a rien pour Jim Birch, ce jeune aviateur. C'est le seul aviateur que le réseau Comet a perdu, hein, le seul. Bon, on a trouvé ça, bon, on a pris contact avec la famille Durcel, et on a eu un projet, Jeff surtout, on a fait un appel à dons, on a dit, on va essayer de créer une nouvelle stèle pour Jim Birch, et on les a mis côte à côte dans une clairière, avec l'autorisation de la famille Durcel, et on a inauguré ces deux stèles, c'est dans le Havre de Paix, à côté de la Bida Soa, bien sûr, mais bon, donc on a fait ces deux stèles-là, et chaque fois, chaque commémoration, on s'y arrête, bien sûr, mais on a surtout fait cette inauguration en 2016, et on va vous passer tout à l'heure une petite vidéo au sujet de cette cérémonie quand on a inauguré ces deux stèles. On va vous expliquer les gens qui sont venus exprès des États-Unis pour l'occasion de cette manifestation. En 2016, c'était Jeff Biriato?
Oui, 2016.
Nous avons ici un aviateur anglais. C'est vrai qu'ils sont un peu spéciaux, ces Anglais. Ils ne voulaient pas manger du beefsteak. Mais quand ma tante leur a fait des petits oiseaux, ils n'ont pas voulu manger non plus. Ils ne voulaient pas manger les petits oiseaux. Ils sont spéciaux. À part Jeff, parce que lui, il a épousé une Française. Il n'a pas été fou, lui. Et elle l'a mis au pas. Bon, les petits oiseaux. Après, il y avait aussi l'oncle de Dominique qui était arrivé depuis le fort du Havre où il était prisonnier, s'était échappé. Il était arrivé à pied, il avait marché tout le long de la voie ferrée et il était arrivé à Sutard. Et une chose qui m'a toujours frappée, ma tante, il avait les pieds tout écorchés, mais alors écorchés à vif. Elle lui faisait tremper les pieds dans de la moutarde. Enfin, pas la moutarde en pot, de la moutarde, la graine de moutarde. Elle lui faisait tremper les pieds là-dedans. Après, chez Gachi aussi, il m'est arrivé une mésaventure qu'il ne raconte pas parce que on est en train de nous bouffer notre histoire, je vous dis. Mais en Anglette, il y avait des gens très, très bien. Je vous assure qu'en Anglette, il y a eu des résistants très, très, très bien. Alors, je vais chez Gachi porter un colis. Ma tante m'envoie porter un colis avec des vêtements et des chaussures. J'arrive dans la salle, plein d'Allemands, gamine, 14 ans. Je rentre, ça sifflait de partout. Alors, j'appelais le patron. René devait être occupé en cuisine. Parfum, il arrive et il dit, « Ah, tu es la petite. Tu vois, la table là-bas, pas la dernière, l'autre. » Tu poses ton colis là. Surtout, tu parles pas, parce que il y a un Canadien, il a un accent à couper au couteau. Ils vont comprendre les autres, là. Pose mon colis, et je sors. Et en arrivant près de la porte sortie, un Allemand qui me parle basque. Alors moi, je connais pas le basque. Je comprends un peu, mais je connais pas. J'appelle René. Je dis René, mais bien. Mais René Gachi, il arrive au bout d'un moment. Et il commence à lui parler en basque. Alors l'Allemand raconte qu'il est hébergé dans une famille à Cambo. Et que ça fait 3 ans qu'il est là. Et comme cette famille parle basque, il a appris le basque. Et donc, sur ça, l'histoire est passée. Je me suis mariée en 1951. En 55, mon mari jouait au rugby à Bayonne et dans le club de rugby qui envoie l'Allemand, qui s'appelait, à ce moment-là, en 55, on l'appelait Boy, Kurt Boy. Il s'est marié avec cette femme de Cambo qu'il a hébergée. Il est père de famille. Hélas, lui et son épouse sont mortes, mais leur fille est là. Elle travaille en Angleterre. Et leur fille est là. Voilà les histoires qui nous arrivent, qui sont là.
Alors, si vous voulez, on va passer à la deuxième partie, qui est la 43-44. Alors, donc, ce passage à Bidassois était brûlé, puisque tout était stoppé, puisqu'il y avait l'arrestation d'André Lejean. Mais comme il était super bien organisé, tout de suite, le numéro 2 a été mis en place. Je vous disais, il s'appelait Jean-François Nothan. Pour la petite histoire, c'est l'oncle d'Amélie Nothan, l'écrivaine. Alors Jean-François Nothan, lui, il est chargé d'organiser, de trouver d'autres passages, d'autres lieux de passage. Et il va prospecter ici, à l'intérieur du Pays Basque. Et on va parler de 4 passages. 4 passages. Il va d'abord prendre contact avec M. Elorga, dont parlait Christiane. M. Elorga, un ancien douanier qui habite à l'école de Sutard, son épouse Marie est directrice de l'école. Et Jean-François Nothan est mis en contact avec Pierre Elorga. Il dit, écoutez, Monsieur Elorga, il faut nous trouver des passeurs. Alors, ironie de l'histoire, c'est un ancien douanier qui va recruter des contrebandiers. C'est ça l'histoire. Incroyable. Voilà. Et il y a 15 jours, Patrick Elorga, mon petit-fils, était avec nous à l'école. Et Monsieur Elorga, à chaque aviateur qui est passé, il avait un petit carnet où il a fait noter à chaque aviateur son nom, son prénom, son adresse. Et on a Patrick est venu avec ce carnet il y a 15 jours. Il a répertorié les 128 aviateurs qui sont passés par l'intérieur. Alors, ils vont tenter un passage par Bidarail. Non, ils vont pas tenter. Il y a eu un passage à Bidarail. Il y a un passeur qui s'appelle Martin Oratégaray de la maison Eripa. On avait pris contact avec la famille. Martin Oratégaray a fait un passage avec Jean-François Nothan. Ils ont passé 4 aviateurs. Mais ils passaient par le village abandonné. C'était très compliqué. Donc ils ont fait un seul passage, mais il l'a fait. Martin Oratégaray. Et ils avaient abandonné cette piste après par le pas. Ils passaient par le village abandonné et remontaient vers eux. Enfin, c'était trop compliqué. Deuxième passage qui était exploré, c'est la Rousseau-Espelette. Alors, c'est là que, de l'auberge là, comme disait Christiane tout à l'heure, ils arrivaient au pont du diable à la Rousseau. Soit ils arrivaient en vélo, le long de la Nive. Parfois, il y avait le quart de Joseph Miral. Monsieur Miral, qui faisait la liaison de bus Bayonne-Cambo, qui en a pris dans son bus, qui les déposait aussi à la Rousseau. Ils arrivaient à la Rousseau, ils étaient récupérés par les passeurs. Sur ce passage-là, 4 jeunes d'Espelette sont recrutés. Les 2 frères Aguerre, dont mon père et mon oncle, Pierre Batita et Pierre Reche, et Jean-Élis. Alors, ils étaient à la ferme Bourgogne-Chalignan à Espelette. L'autre passeur, c'est Pierre Etchegoyen de la ferme Chaudier-Théa, et Jean-Élis Sondo qui est à la ferme Doula-Comourda. 4 jeunes contrebandiers d'Espelette recrutés par Pierre Elorga. Voilà le scénario. Et quand ils arrivaient au pont du Diable, Christiane l'a dit tout à l'heure, Mathilde Garat, le boulanger de la Rousseau, était chargé de récupérer les vélos, de les mettre dans sa camionnette et de les ramener à Bayonne chez monsieur
Claverie,
Henri Claverie, à la rue Tour de Sceaux, qui lui était chargé, toujours membre de Comète, était chargé d'entretenir les vélos, parce que les vélos repartaient parfois à Dax. Il y avait des complicités avec SNCF, c'est indéniable, indéniable, bien sûr. Ils remontaient les vélos dans le train jusqu'à Dax. Bon. À la ressort, donc, les passeurs utilisaient une bergerie, Andochiné-Comorda, qui est à peu près à 500 mètres du pont du Diable. Cette bergerie existe toujours, elle est dans cet état. Ma mère, qui est de la ressort, elle n'a jamais été habitée. Ils l'ont toujours connue comme ça, cette bergerie, elle n'a jamais été habitée. Et là, les passeurs cachaient les aviateurs. Alors, une nuit, deux nuits, on sait pas. Et de là, ensuite, ils les conduisaient Espelette, Mondarin, Soala Tekelepoix, Iturri-Gomorda, Ilepo. Tout ça, ils arrivaient à une bergerie qui était juste à la frontière, qui connaissait un peu la montagne, à côté de Deshteben-Gomorda. Il y a une ferme qui s'appelle Diaoli-Gomorda. Là, il y a Chamiura qui accueillait tous les aviateurs. Là, c'est 5 heures de marche. Les passeurs, je vous disais, Pierre Echeboyen, Batita Aguer, Pierre Echaguer, Jean-Lisson Dour. Batita Aguer, il a été arrêté, par contre, à un moment où il était à Comète. Là, Christian a raconté tout à l'heure. Il a été arrêté, il a été amené au Fort du à Bordeaux, et en complicité avec un gars d'Espelette qui travaillait aux cuisines, il lui dit la seule chose, parce qu'après c'était direction les camps, la seule chose, alors les Allemands lui ont écrasé, il avait le bout des doigts abîmés, les Allemands lui ont écrasé les mains dans les portes en fer pour le faire parler. C'était une armoire, une télé. Ma cousine est là, elle dit, Batita, c'était une force de la nature. Hein. Bref. Et donc, grâce à la complicité d'un employé, d'un gars de Spelette qui travaillait à la cuisine, il lui dit, ce soir, il y a un camion, tu te débrouilles, mais c'est le seul moment que tu peux sortir d'ici, c'est ce soir-là. Il s'est planqué dans ce camion, il est sorti du Fort du Har, il n'y a pas eu de contrôle à la sortie du camp. Voilà. Et il est arrivé en courant, il a sauté du camion, il est arrivé en courant. Il a repéré la gare de Saint-Jean à Bordeaux, et là, il s'est dit, bon, il a pris la direction, un train qui partait sur Randail, et là, il est monté entre deux wagons, il a fait Bordeaux-Bayonne, entre deux wagons planqués, hein, et arrivé, abîmé, ensanglanté, tout ça, blessé. Il est arrivé avant la gare de Bayonne, il a sauté du train, il est allé manger, donc, chez Marthe Meniara, et après, il est parti de là, de l'auberge là, en courant. Il se cachait beaucoup à Maya de Bastan. Il passait en Espagne. Oui, voilà, pendant quelques jours. Pour la contrebande aussi, hein. Quand ça commençait à chauffer, hop, il restait en Espagne. Il revenait pas pendant quelques jours. Et donc, il est resté, et mon père est allé le chercher 3 semaines après pour qu'il reprenne vite le service à Comète. Voilà, Batita. Alors, Diaoli-Gomorda, c'est une bergerie qui est super bien cachée. D'ailleurs, au début qu'on a fait nos recherches, on n'a pas trouvé ce bergerie. Pour vous dire où comment on est caché. Et c'est Chamiura qui habitait là. Chamiura, il accueillait tous les aviateurs. Et Chamiura, il aurait pu, c'est ce qui nous rend beaucoup d'émotion avec, quand on est avec cette famille, comme il y a 15 jours, parce que il aurait pu les larguer après, ils étaient en Espagne, hein. Non. Il les a conduits, chaque aviateur, il les a conduits jusqu'à Maya de Bastan. Et alors là, dimanche, il y a 15 jours, on a fait la marche, c'est 5 heures de marche. Hein. Donc, 5 heures d'Espelette, de la ressort, jusqu'à Diaoli-Gomorda, et 5 heures de plus pour aller à Maya de Bastan. Et là, ils utilisaient beaucoup un petit train. Il y avait un petit train qui faisait la ligne Elizondo, qui s'appelait Tiquition, un nom comme ça. Un petit train qui servait aux gens de Elizondo, qui longeait la vallée du Bastan, là, et qui allait jusqu'à Saint-Sébastien. Il servait surtout à amener les animaux, les poules, la volaille, enfin, tous ces trucs-là, les légumes et tout ça. Et là, les aviateurs utilisaient ce train, et ils arrivaient jusqu'à Saint-Sébastien. Et là, à Saint-Sébastien, très vite, ils étaient récupérés par les voitures diplomatiques de Michael Creswell. Alors ça aussi, comment savait-il que ce jour-là, tel jour, les aviateurs allaient arriver à tel endroit, ça c'est pour nous c'est un mystère encore, hein. C'est un mystère. Il y avait des codes, hein. Il y a M. Dacier, à la poste, il utilisait « les colis vont arriver demain matin », les colis, ou les
enfants.
Les enfants vont arriver demain soir. Ah bon, c'était des codes comme ça, téléphone, le colis. Il y a l'Icoborda, vous l'avez ici, là, cette bergerie, au fond, là-bas. On voit au fond, c'est le Mondarin là-bas. Là, on est côté espagnol.
C'est incroyable, bien caché, cette femme. C'est l'autre côté de cette. Oh, pardon.
Alors, on voit la ferme. Ici, le bouquet d'arbres qui est à droite, là. À droite, il y a Echeveen-Bourda. Echeveen-Bourda, c'est connu parce que c'est une étape du GR10 aujourd'hui. Echeveen-Bourda, c'est les Allemands étaient basés là. Echeveen-Bourda. Voilà. Il y a une perche, une borde d'ailleurs qui sort où les gens dorment pour le GR10 actuellement. Et là, les Allemands étaient basés là, et donc ils survivaient toutes les crêtes. Ils étaient à vol d'oiseau, ils n'étaient même pas à 700 ou 800 mètres de Dirlibourg. Et souvent, les affectations allemandes, on a su ça, qui étaient des soldats allemands qui venaient, qui étaient affectés là. C'est souvent ceux qui avaient travaillé, qui avaient été en poste, sur les Alpes, tout ça. C'était des spécialistes déjà en montagne, quoi. Ils venaient surveiller les crêtes. Deuxième passage, ce qui a eu lieu, c'est la souraille de Dancharia. Mandechigomorda, la ressort, toujours cette bergerie. Ensuite, il passait par Souraï, l'horizon la Pichourie. Il y a Aïségué-Lico Erika, c'est un ruisseau qui est longé. Voilà. Et là, il y a trois personnes. Alors, Michel Echeveste et Cochet Marie Echeveste et Juanito Bideguer. Juanito Bideguer, vous l'avez connu, Christian?
Voilà.
Voilà, c'est ça.
Oui, oui. C'était un réfugié espagnol également qui vivait dans une ferme chez Méa, à côté du golfe de Bassusari.
Cochet Marie Echeveste a une histoire incroyable. À la fin de la guerre, il a voulu partir aux États-Unis comme berger. Il pouvait pas parce que les Américains avaient fermé toutes leurs frontières après la guerre. Ils avaient fait un blocus à toute l'immigration. Et comme il avait tous les membres de Comet, les passeurs et les hébergeurs, ont obtenu par les Américains la Freedom. La Freedom, c'est une médaille, c'est la plus haute distinction que les Américains attribuent, que les militaires américains attribuent à des civils. Et Cauchemarie, il avait eu cette Freedom. Et quand André Lejean fait les services de Comet, ont su qu'il voulait aller là-bas et qu'il ne pouvait pas y aller puisque la frontière était fermée. Grâce aux autorités de Belgique, de Comet, plus grâce aux autorités américaines, il est allé, s'est installé comme berger. Et là, régulièrement, il y a sa fille qui vient,
Marie Alfaro.
Marie Alfaro qui vient.
Elle m'a contacté en 2017, comme ça. Ouais. Elle est venue avec sa fille et son père, il n'a jamais parlé de qu'est-ce qu'il a fait. Il a parlé de Comet, mais c'est toujours quelqu'un d'autre. C'est mon ami, il a fait ça, ça, ça. J'ai compris immédiatement. Et je connais bien qu'est-ce qu'il a fait, Cauchy Marie, et j'ai pris la fille et la petite fille dans les montagnes. J'ai dit, c'est là où ton père était actif. Il dit, oui, c'est exactement comme il dit. Mais
c'était toujours quelqu'un d'autre. Oui.
Jamais lu. Il a fait rien.
Et le quatrième passage, qui était la fin de la guerre en 44, ça s'est passé avec Lucie Dufaux qui était à Sarre. Mais là, c'est la fin, hein, c'est juin, mai-juin, c'est des responsables de Comet, donc famille de greffe qui passe par Sarre, Frédéric et Janine, la famille Charles Morel, et la famille de Madame Morel qui était avec nous il y a 15 jours, Chantal Morel, Chantal Morel, on sent, René Morel. Je vous racontais l'histoire de Chantal Morel. Chantal Morel, qui était avec nous il y a 15 jours, et là, son père était un responsable de Comet, Charlie Morel, et il a été arrêté avec trois aviateurs, et il a été emmené au camp de Dachau, et il est mort à 31 ans au camp de Dachau. Sa maman, elle est morte sous un bombardement. Ça fait que Chantal s'est retrouvée orpheline à 11 ans avec son frère René, les deux. 11 ans, 4 ans. À ce moment-là, on est au début de la guerre, ce sont les responsables de Comet, Jean-François Houton, André Dejean, tout le staff de Comet qui vont s'en occuper, qui vont les prendre en charge, comme ils sont orphelins. Et ils vont les prendre, ils vont les cacher. Ils vont vivre cachés, même ici à Anglet, dans une maison, ils allaient à l'école ici, à l'école à côté chez Léontine d'Anglade. Ils ont été cachés même en Espagne. Ils avaient 11 ans et 4 ans. À la fin de la guerre, en 45, avec un accord entre la direction de Comet et la fondation d'anglais d'anciens aviateurs Albert Lake, ils se sont entendus, ils se sont dit, on va leur payer des études jusqu'à leur majorité. Et c'est cette association anglaise d'aviateurs et Comet qui leur ont payé leurs études jusqu'à leur majorité. Et moi, j'ai rencontré par pur hasard en Charente, cet hiver, et elle est venue là, il y a 15 jours, elle était avec nous. Là.
Voilà. Oui.
Histoire incroyable. J'ai rencontré des enfants de Comet. Mais, vous voyez, il y avait, bien sûr, il y avait aussi la solidarité, la preuve. Il y avait une solidarité, même après, quoi. Ils étaient orphelins, les deux. Et dans les documents de Comet, je lui ai dit, il y a 15 jours, votre petit frère René, là, quand il passait, là, il traversait, là, il était petit, 4 ans, il n'arrêtait pas de se faire engueuler parce qu'il parlait trop fort, alors, il fallait pas faire de bruit, quoi. Voilà. Et donc, ils sont passés. Ah oui, alors, Lucie Dufaux, elle habitait la maison, d'ailleurs, pour la petite histoire. l'ancienne maison en sable de Louise Mariano. C'est ça que tu veux dire, Jeff Ness?
Oui.
C'est ça.
Bon. Oh, on a besoin de quelqu'un pour lire.
Oui, est-ce que quelqu'un veut lire ce petit paragraphe, s'il vous plaît? C'était une phrase qu'on utilise, voilà, une phrase dictée par Jean-François Nothomb, numéro 2.
Cette nuit-là, je suis devenue un peu basque. C'est pourquoi, en tant qu'homme et en tant que membre de Comet, cette nuit, cette période de ma vie, de 16 mois au bord de cette frontière, m'ont profondément marqué. J'ai connu beaucoup de Basques, et il s'est toujours créé entre nous un lien très fort, si proche de l'amitié. J'ai découvert petit à petit les qualités extraordinaires de ce peuple. La fidélité à la parole, un courage proverbial, des vertus chrétiennes et communautaires. Je pense qu'il y avait une connaturalité entre les Basques et l'esprit de Comet. Nous ne pouvions pas ne pas faire bon ménage. Tous ceux qui ont été en contact avec ce peuple de contrebandiers n'ont pu que l'aimer et l'admirer.
Merci, madame.
Merci. Les Allemands, ils n'ont jamais trouvé cette route à l'intérieur. Il y a 128 aviateurs qui passaient par là. Les passeurs, le seul, c'était Batista.
Oui.
Mais il est échappé. Oui. Mais pour le reste, ça continue.
Oui, toujours. Il n'y a jamais eu d'interruption. Il n'y a jamais eu d'interruption. Donc, bon, le passage à l'intérieur, ils sont tous arrivés à bon port, quoi. Ils sont tous arrivés à Madrid, à Gibraltar. Ils ont tous, et après, côté habitation, il y a eu que ce pauvre Jim Birch qui a été un seul aviateur, je vous disais, qui a été perdu par Comet. Alors, qu'est-ce que cette association, je vous disais tout à l'heure, elle a été créée en 2003 par Jean Dacier, par Bernard Castet, et puis par Juan Carlos de Aberasturi, qui est historien, qui habite à Saint-Sébastien. Et ils ont eu l'idée avec Lucien Dacier de Christ Association. Et déjà, au départ, il faisait des commémorations sur la Bidasso, uniquement sur le passage à la Bidasso. Et puis, nous, très vite, après, on a pris ce deuxième passage, quand les commémorations, c'est ce qu'on a fait il y a 15 jours, tous les ans. On organise 4 journées. Ça commence le jeudi. Cette année, le jeudi, on avait une dédicace à la BD du réseau Comet, qu'on ne vend pas, nous, mais qui est en vente. Qui est en vente à la librairie El Cadre ou ici à la FNAC, qui a été faite par Marco. Donc, mercredi prochain, Racine et des Ailes, le fil conducteur de l'émission, c'est Marco, avec qui on a fait l'émission. C'est lui qui raconte l'histoire de Comet. Alors, on a inauguré aussi cette stèle, la place Lamotte. On a pensé que c'était un lieu stratégique par rapport à l'épicerie de Léontine, mais aussi pas très loin de la ville voisine. Alors, on a appris par la mairie que la place Lamotte va être entièrement reconstituée, retrouvée, revégétalisée, avec beaucoup de végétation, c'est plus facile, l'année prochaine. Voilà, avec des comètes, on a travaillé sur, il faut le dire, quand même que la ville d'Anglette a financé l'opération de cette BD pour un budget de 40 000 euros. Qui a été voté sur 3 ans à l'unanimité par le conseil municipal d'Anglette. L'idée, c'est qu'il y a 10 000 exemplaires qui ont été édités, 1 500 sont distribués à tous les élèves d'Anglette. Nous avons un programme sur 3 ans. C'est-à-dire que quand on dit distribuer, avec Claude Olive qui était là tout à l'heure, monsieur le maire, on ne fait pas que distribuer. On passe un après-midi comme aujourd'hui avec vous, avec les élèves, on leur raconte l'histoire. Marco est là. Nous, avec Jeff, on raconte l'histoire qu'on est en train de vous raconter. Plus Marco raconte comment il a créé cette BD. Voilà. Et après, on remet à chaque élève une BD. Sur les 10 000 exemplaires, 1 500 sont distribués aux élèves d'Anglette. On a un programme sur 3 ans. On a encore 2 années à faire. 2 années, c'est en général 4-5 jours. Les 8 500 édités ont déjà été vendus. Ils sont en réédition. On a été la présenter avec une petite équipe au Festival de la BD d'Angoulême. On était au Musée de la Résistance. Et c'est vrai que c'est un... Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire de Réseau Comet. C'est vrai aussi. Beaucoup de gens ne la connaissaient pas. Donc c'est un moyen, parce qu'on dit comment... Notre souci permanent, cette association, c'est comment transmettre. Comment transmettre aux générations futures cette histoire, cette incroyable histoire. Et donc c'était un moyen. C'est Liane Béovide qui a eu l'idée géniale de créer cette BD. Bon, bien sûr, après le financement a suivi. Voilà.
Alors, au sujet de cette BD, je vais dans les collèges, moi je vais dans les collèges, mais je raconte que ce qui m'est arrivé à moi, à part ce que je sais de la création du réseau qui m'a été raconté, je ne l'ai pas vécu. Je n'ai vécu que la création d'ici, du coin. Hein, parce qu'au départ, il y avait plusieurs réseaux, mais il y avait surtout le réseau Castille à Bayonne, en bas de la rue. Avec le monument aux morts, là, qui était dans un petit bar, qui était là où il y avait la gare du BAB, et il y avait une douzaine d'hommes là, et monsieur Lorga, étant ami avec des gens de là, s'était occupé de fusionner un peu, il avait mis monsieur Dacier, dont le fils est au fond là-bas, il avait mis monsieur Dacier en contact avec ces gens-là, et ils avaient fondé le réseau Comète là, bien ensemble, mais il y avait plusieurs réseaux. Il y en a parmi vous qui ont travaillé chez Dassault. Moi, mon père y était. Chez Dassault aussi, il y avait un réseau. C'était le réseau Rémy, où il y a eu deux ouvriers de chez Dassault qui ont été déportés et qui ont été fusillés. L'un a été fusillé au plateau de Lannemezan. C'est monsieur Goujard. Non, c'est pas monsieur Goujard. C'est monsieur Lannebert. Et monsieur Goujard a été fusillé à Bordes, à côté de Pau.
Alors, les commémorations, qu'est-ce qu'on fait? Tous les ans, donc, on organise une commémoration, qui se commence d'abord le jeudi, donc on est arrivé sur la BD, le jeudi, cette année à l'écart. Le vendredi, ben, c'est d'abord, on se rend, le matin, on fait notre assemblée générale. Le vendredi après-midi, après, on se rend toujours sur la tombe de Jean, notre fondateur, notre ami Jean Dacier, dont le fils est ici. Je salue, fils, voilà. Martin, ouais. Et donc, après, là, mais on a une cérémonie que certains de patrimoine ont assisté vendredi, il y a 15 jours, à la place Lamotte, une cérémonie officielle, on officialise là. Et cette année, on avait la chance d'avoir un détachement de la Royal Air Force qui est venu. Aussi le premier paysman, les cornemuses, enfin, c'est une belle cérémonie, toujours à la place Lamotte. Alors, une année, on fait l'habit d'Assois, 41-43, et on fait le vendredi, donc, les sur anglaise, et le samedi, dimanche, deux journées de marche. Je vous disais tout à l'heure, on fait deux journées rue, et on traverse la ville d'Assoua, quand elle est par droite. Et le lendemain, on fait le passage, voilà, les deux journées. Et l'année suivante, comme cette année, par exemple, on était sur le passage intérieur. Donc, on a fait la ressort Espelette, et après cette année, on est allé sur Maya Devastan. Les relations, on a d'excellentes relations, c'est vrai que c'est... la magie, on peut dire ce qu'on veut d'Internet, mais nous, la magie d'Internet, je vais vous expliquer notre projet actuel. La magie d'Internet fait qu'aujourd'hui, il y a des familles d'aviateurs, des enfants, des petits-enfants. On est toujours resté cette année, il y avait des familles de Washington, il y avait des familles de parfois même d'Australie qui viennent. Quand ils voient le nom de leur père, de leur grand-père qui a été ici, caché, à tel endroit, qui a marché sur tel passage, aussitôt, bon, bien sûr, c'est des gens qui ont des moyens, hein, c'est sûr, mais ils viennent, on a reçu déjà la famille Stanford, ils étaient une dizaine, ils sont venus des États-Unis. Voilà, ils viennent parce qu'ils veulent venir marcher sur les pas de leur père, de leur grand-père, quoi. C'est sûr que c'est toujours des rencontres très, très émouvantes, quoi. Il y a beaucoup d'émotions.
C'est toujours la même histoire. Le père n'a jamais parlé. Jamais. Je demande, qu'est-ce que votre père a raconté au regard vis-à-vis de Comet? Nada. Non, c'était toujours le même.
Actuellement, on a des relations avec la Royal Air Force, grâce à Jeff, pour le dire. On va peut-être passer même une convention avec la Royal Air Force et tout. Cette année est venu le général Lowe, avec un détachement d'aviateurs. Et on a d'excellentes relations avec l'ancienne DRH de la Royal Air Force, Maria Byford, qui maintenant n'est plus en activité, mais qui est venue aussi cette année. Pour vous dire qu'on va essayer d'instituer avec eux une venue, parce que tous les ans, il y a une délégation de la Royal Air Force qui vient avec des militaires, voilà. Donc ils ont marché, quand on dit ils viennent en délégation, ils viennent pas que pour la cérémonie, ils marchent, hein, les jeunes marchent, ils ont marché. Le général Long, il a marché pendant les deux jours. Là, bon, ils viennent pour marcher aussi.
Ils ont dansé
aussi.
Les Basques les ont fait danser. Ils ont chanté en basque et ils ont dansé les chansons basques. C'est en 2004, dont le réseau a été créé en 2003 par M. Dacier. En 2004, c'est un aviateur anglais, c'est toujours eux, qui m'a fait rechercher. Et il était passé deux fois par chez ma tante, et en partant, il me dit, je reviendrai, qu'est-ce que tu veux que je te porte? Et bon, chez nous, on n'a pas eu faim, parce qu'on avait un jardin, on tuait le cochon. Et je lui dis, porte-moi du chocolat. Et 60 ans après, il m'a fait rechercher, il est venu me porter le chocolat.
Donc actuellement on a des négociations aussi, sur des très bons rapports avec les bases aéronavales, ils disent maintenant les bases d'aéronaval et de l'espace de Salon de Provence, qui sont venus l'année dernière, de Mont-de-Marsan et Cazaux aussi. Bien. Concernant les commémorations, alors, notre grand projet cette année, voilà ce qui nous est arrivé, cette fameuse... la villa de mes rêves, j'appelle la villa de mes rêves, Mont-de-Chicobourda, là on sort. Cette bergerie appartient à une famille de Camolébé, on peut dire les noms maintenant parce qu'on va passer la semaine prochaine chez le notaire, première partie chez le notaire. La famille Boudon, qui sont François, Peyo et Beignat Boudon, qui sont trois garçons de, qui étaient commerçants à Cambo, qui sont des garçons qui ont toujours suivi l'actualité de Comète, ce sont des amis, hein, qui ont toujours été très proches de nous. Et ils ont décidé, les trois, de nous faire don de la bergerie, pour nous remercier de nos recherches. C'est-à-dire que, voilà, famille Boudon, cette bergerie, c'est là où ont été cachés les 126 pour Jeff et 128 pour moi. Et
c'est un bien sûr.
Sur quelle commune?
Comment? La Ressort. Quand vous allez à La Ressort, vous traversez le village à Ressort, vous avez l'église, vous traversez, vous arrivez au fronton où il y a les maquillas de chez Mathilde de Bergara, Charles Bergara, vous avez le fronton, et à peu près à 100 mètres après le fronton, vous avez une petite côte qui descend à droite, et vous allez au pont du Diable. C'est là que les aviateurs arrivaient. On a une stèle, vous avez une stèle.
Mais je connais très bien.
Bon, eh bien, la bergerie, alors là, elle est à 500 mètres, mais cachée. Cachée, très cachée. Donc, la famille Boudon nous font don de cette bergerie. Ça a été un débat chez nous, parce que, d'accord, mais bon. Alors, ce qu'on a fait, on a réuni un conseil d'administration et on a décidé de se lancer. On a décidé surtout parce que on en a parlé tout de suite au sous-préfet de Bayonne. Et le sous-préfet nous a tout de suite soutenu. On a fait une réunion avec Madame de Merlis, que je vous présentais. On a fait une réunion à la mairie de La Ressort. Sa mairie de La Ressort est partie prenante. Et nous avons tous décidé de porter ce projet. Le but, c'est de la rénover et d'en faire un lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons décidé un plan. Je vais vous passer Madame de Merlis, qui est la responsable du patrimoine et qui nous aide dans ce projet.
Alors, moi, j'ai eu la chance, fin 2023, d'avoir un mail de Dominique Aguerre, moins long pour m'expliquer tout ce qui, la conférence tellement émouvante que nous avons eue aujourd'hui. Mais son projet m'a beaucoup émue. Nous sommes rencontrés en janvier 2024 et nous avons commencé à travailler ensemble avec le maire de La Ressort, et on a fait la visite de cette magnifique bergerie. Et le projet de rénovation et de réhabilitation de Mont-de-Chicobourda à La Ressort m'a vraiment émue, parce que c'est vraiment un lieu de mémoire. Je me suis dit, il faut absolument que l'on aide ce projet à se réaliser, parce que ceci sera une transmission pour les nouvelles générations. Donc la Fondation du patrimoine, en deux mots, de 1996, début de la Fondation, notre ADN, c'est sauvegarder et valoriser. Donc nous avons des actions aussi bien avec les collectivités qu'avec les particuliers. Et donc pour Comète, cette board correspondait à mettre en place une collecte de dons. Donc la collecte de dons consiste à un appel de mécénat populaire, donc nous tous qui sommes dans cette salle. Donc cette collecte va pouvoir se mettre en place pour que l'on puisse aider financièrement l'association Comète, et vous tous aussi dans cette salle, et tous vos amis, toutes vos relations, il faudra vraiment, je vous en supplie, de les aider pour que l'on puisse atteindre un montant pour les aider à porter cette restauration, même si ça sera pas une habitation, ça sera vraiment un lieu de mémoire qui sera remarquablement fait. Et donc, voilà, nous allons pouvoir, après, nous, moi de mon côté, trouver un mécène qui complétera et qui permettra que l'on puisse porter à bien ce magnifique projet. Et je vous en remercie. Pour moi, c'est une très, très belle aventure.
Alors, comme nous avons encore revenu que notre pauvre petite carte d'adhérent de 15 euros, nous avons édité ce livre que nous vendons 18 euros, qui est traduit en 4 langues. Mais pour répondre à votre question, madame, il y a la carte de ce chemin de passage de La Ressort qui va jusqu'à Maya des Bastans. Donc nous avons travaillé, il y a une carte que Olivier vous présente là-bas, qui est à vendre. Ça, c'est le dernier passage qu'on a trouvé, avec tous les lieux tous les deux, côté français, côté espagnol, depuis Anglette, Laubergelard jusqu'à Maya de Bassan. Pourquoi la mairie de la Rosson est partie prenante de ce projet? D'abord, c'était écho très favorable du sous-préfet et du préfet, parce que les deux sont venus, c'est assez exceptionnel. Ils sont venus à notre commémoration il y a 15 jours. Les deux étaient là, préfet, sous-préfet. Donc, ils sont venus soutenir ce projet de la Rosson. Alors, la première chose que nous allons faire, nous avons déjà fait un redécoupage du terrain, parce que la famille Boudin voulait nous donner 16 000 mètres carrés de terrain avec la bergerie. Oh là là, avec, pour le bon Dieu, c'est de la hausse et piment d'Espelette. Je veux dire, on va pas commencer à faire du piment en plus. Non, ça, on en a assez comme ça. Donc, on a partagé et on passe pour ça chez le notaire la semaine prochaine. On aura la bergerie avec 8 000 mètres carrés de terrain. Premier objectif. Sauver les murs et le toit. Le mur et le toit. On est à 76 000 euros de travaux. Première tranche. Là, premier objectif. Deuxième tranche, accès. Accès, on a étudié avec Jeff et toute l'équipe le tracé depuis le pont du Diable jusqu'à la bergerie, le tracé que faisaient exactement les aviateurs et les passeurs. Donc on va réhabiliter avec la mairie de la Rosson ce chemin piétonnier. Deuxième accès, pour les gens qui viendront après avec des véhicules par un autre endroit plus haut, garde parking pour les voitures, un petit chemin d'accès. Voilà. Enfin, si vous voulez, la question, au départ, nous, notre association s'est dit, on va la rénover comme il était en 43-44. On retape les murs, on retape les toits, et c'est tout. Et là, le sous-préfet nous dit, non, on va aller plus loin. Parce que c'est vrai qu'avec Jeff, et quelques heures, on fait des interventions en milieu scolaire, on est à 12-14 interventions depuis un an de temps. L'idée, c'est qu'effectivement, on fasse venir des scolaires, enfin, tous ceux qui voudront, pour qu'on leur raconte cette histoire dans les murs, au milieu de ce bâtiment. Voilà. Donc, accès. Et le quatrième objectif, alors c'est pas un secret parce que on a eu la chance aussi d'avoir Liane Béobide, qui était la directrice, que vous connaissez en anglais, qui est directrice de la culture, qui a cessé ses fonctions. Eh bien, on a le plaisir qu'elle est rentrée avec nous dans notre conseil d'administration, et c'est elle qui va nous aider à réaliser ce projet. Liane Béobide, qui était ici la responsable de la culture et du patrimoine à Anglette, qui maintenant ne travaille plus, mais elle est rentrée dans notre assaut, et c'est elle qui mènera le projet avec nous, bien sûr. Et donc, la finalité du projet, c'est effectivement de faire un lieu de mémoire avec une scénographie, panneaux, enfin, tout ce qu'on peut. Voilà. Et c'est vrai que nous, l'idée, c'est qu'on fasse venir des scolaires là-bas et qu'on puisse leur raconter cette histoire. Donc, on disait les chiffres terribles pour l'histoire le lourd tribut qu'a payé Comet. 328 aviateurs sauvés pour 259 morts, dont 51 femmes du réseau, donc 5 du Pays Basque, fusillés au tir national de Bruxelles ou au Mont Valérien, à Paris, ou dans les camps, dont 51 femmes, c'est ça. Et donc 5 du Pays Basque. Et les 5 du Pays Basque sont Francia Osandizaga, Manuel Larbourou, Durugne, Monsieur Dacier, Jean-Édouard Dacier, 3, et Alejandro Elizal. Alejandro Elizal, c'est une histoire incroyable. Il était sur le passage de Bidasoa, réfugié en guerre d'Espagne. Il quitte l'Espagne, condamné à mort par Franco en 1936. Alejandro Elizal habite à Saint-Jean-de-Luz. Il rentre aussitôt à Comète. On est en 41, 5 ans qu'il est parti de chez lui. 41, il rentre à Comète. Il se fait arrêter au bar Le Prado à Saint-Jean-de-Luz. Il sert de chauffeur de taxi. Il amène des aviateurs, parfois de Cibourg, il les amène dans son taxi. Il se fait arrêter. Il est amené au camp de Buchenwald. Et à la fin de la guerre, il est mourant. Il est mourant, il est très, très amaigri. On est en 45. Je vous dis, 36, 41 arrêté par Comète, 45, 9 ans qu'il est parti chez lui. Donc, il est transféré au centre Marie-Agnès à Camoulibert, mourant. Là, sa femme, il a 4 enfants. Sa femme qui ne l'a pas vu depuis 9 ans. Sous la pression des autorités des franquistes, refuse à sa femme l'autorisation de sortir d'Espagne pour venir le voir mourir à Camoulibert, à Marie-Agnès. Et c'est sous la pression de André de Jong, dirigeant de Comète, et Michael Creswell, qu'il y a une voiture consulaire qui va amener son épouse et ses 4 enfants lui rendre une dernière visite à Marie-Agnès, à Camoulibert. Voilà. Et on a toujours, il est décédé 2 ou 3 heures après la visite de sa femme et de ses enfants. Voilà. Sa petite fille est avec nous dans l'association, elle s'occupe du côté du Bastan. Mais c'est pour dire le combat de ces hommes aussi qui se sont battus pour la liberté, c'était le franquisme, c'était les Allemands, c'était incroyable, une vie incroyable. Ils n'ont jamais pu, ils ont toujours battu pour la liberté. Ils s'étaient battus contre Franco, et là, il arrive en France, il se bat contre les Allemands, mais c'était des vies de combattants. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, je voulais parler d'une petite histoire qu'on a eue. L'année dernière, avec Jeff, on a été contacté. Jeff, c'est Caroline Pulin, la jeune fille. Oh. On avait eu une histoire.
Oui, un jour, j'ai reçu un mail. 7h le matin, j'étais là. Bonjour, je suis une jeune femme de 13 ans. Et j'ai pensé, alors, c'est quoi ça? C'était une jeune fille de Californie. Elle a fait un projet sur Comet pour son école et elle a gagné le premier prix. Et j'ai échangé des mails et après quelques mails, j'ai dit oui, elle est vraie. Elle est arrivée, c'était quand
L'année dernière.
Non, l'année dernière.
L'année dernière, la commémoration avec sa mère.
Oui, 2023. Elle est venue avec les grands-parents, sa mère et Kathleen. Et elle a parlé à la mairie dans la salle des fêtes devant tout le monde. 13 ans, elle est comme ça. Elle est fantastique. Et je suis toujours en contact avec la mère aussi.
Famille.
Oui.
Voilà. Si vous avez
on parle de cette petite jeune fille, mais
oui.
Moi, je suis allée à Stella Marie et il y a également dans la classe de quatrième, donc, à la classe de quatrième, et ils ont fait un devoir également sur le réseau Comet, un peu sur la bande dessinée. Et il y a un des gamins qui a fait un devoir, il a été sélectionné. Ce devoir est parti à Paris, il a eu le troisième prix. C'est quelqu'un d'ici. Vous voyez, encore en grotte, mais je vous dis qu'on le bouffe tout.
Donc, dans les projets, mais voilà, donc, une émission de télévision. Après, on a une réunion hier à Fercor, c'est pour une émission de Tiritia, comme on dit, Alexandre Tiritia, l'émission de Alien des Boutins, qui sera tout en basque. Voilà. Alors, ce qu'on a créé, justement, c'est la mémoire de Jean. Je pense beaucoup à Jean Dacier parce que, grâce à lui, on a pu, à un moment donné, on a été un petit peu en difficulté avec des Espagnols, tout ça, de l'organisation de beauté. Alors, on a eu l'idée de créer, ici, bon, les amis du réseau Comet, donc c'est bien nous, mais pour avoir d'excellentes relations avec eux, dans notre conseil d'administration, on s'est fait renforcer de deux postes pour Comet Bastan, c'est-à-dire Comet jusqu'à Mayel-Bastan, tout ça, et puis Comet Bidassoa. Donc on a deux représentants de chaque comité, ils ont créé une entité, et c'est pour ça qu'on permet, ça nous permet à nous, nous on s'occupe surtout du jeudi, vendredi, samedi, mais le dimanche, on laisse l'organisation des commémorations ceux de l'autre côté. Quoi. Ils sont dans notre conseil d'administration, et depuis c'était l'idée de Jean, ça je tiens beaucoup à le dire, c'était l'idée de Jean Dacier, de pouvoir leur offrir aussi des postes dans notre conseil d'administration, et pour pouvoir travailler ensemble, parce que c'est vrai que l'histoire, les aviateurs arrivaient à dire Lico Bourda, bon, mais c'était Audax, hein. Après, ils allaient à Mayel-Bastan, et puis après, ils arrivaient à Sarrobé, et ils allaient jusqu'à Saint-Sébastien. Donc, il y a eu un rôle très important fait par le côté espagnol aussi, à tel point que nous, l'année dernière, on a été reçus par le maire de Bilbao, parce que le maire de Bilbao, il était au courant parce qu'il savait que dans sa ville, il y avait cette antenne de Michael Creswell, des alliés, qui organisait le rapatriement et l'organisation de récupération de tous les aviateurs. Quoi. Et il était parfaitement au courant. Et il nous a invités à la mairie du Bilbao et il nous a raconté l'histoire. Il la connaissait très très bien. Voilà.
Le réseau d'évasion Comet, vous venez d'entendre la conférence enregistrée à Anglette, à la Maison pour tous, le 21 septembre 2024, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, conférence à l'initiative de l'association Anglette Patrimoine. Vous avez pu entendre les interventions de Dominique Aguerre et Geoff Cooper, qui perpétuent le souvenir du réseau Comet au sein de l'association Les Amis du réseau Comet. Vous avez aussi entendu Christiane Saldias, membre du réseau, alors âgé de 14 ans, et l'intervention de Marie Demerlis, délégué départemental de la Fondation du Patrimoine, qui nous a parlé de la réhabilitation de la bergerie Mandochenko-Borda à La Ressort, qui servit pendant la Seconde Guerre mondiale d'abri aux aviateurs anglais. Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter le site des Amis du réseau Comet, Comet Sud au Pays Basque. Voici l'adresse internet comet-pays-basque en un seul mot tout attaché.blogspot.com.